Quand vous parlez de poésie, par exemple, vous savez très bien que la modernité de la poésie commence avec Baudelaire. Et il y a des hommes qui sont des phares de la culture. Et Debussy en est un, comme Baudelaire en a été un.
Moi, en fait, je me rends compte, en venant là dans le métro, je me disais, mais j'aurais jamais pu faire de musique avant Debussy.
Je suis certain que là-haut, mes chers Claude Debussy, Duke Ellington, Ravel, n'arrêtent pas de jouer ensemble.
Je ne révolutionne rien, je ne démolis rien, je vais tranquillement mon chemin sans faire la moindre propagande pour mes idées, ce qui est le propre du révolutionnaire.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Cette semaine encore pour une émission toujours en direct, toujours libre de toutes les substances, de toutes les couleurs, de toutes les révolutions, de toutes les réappropriations aussi. Une heure de radio sur la musique et en musique. C'est toujours la série musicale. Bienvenue. Sous les doigts du sambiste bien-aimé Lorindo Almeida. Vous le reconnaissez, bien sûr. C'est le clair de lune qui va ouvrir un nouvel épisode de notre série, une série lancée au début de l'émission, série L'éternel retour, qui se fait une joie de noter, de débusquer parfois la manière dont un répertoire ou une matrice rythmique, ou bien un ou une compositeur, compositrice inonde, habite en réalité notre univers musical, sans parfois même qu'on en ait précisément conscience. Après Chopin, dont les mélodies peuplent toujours la musique populaire du XXe et du XXIe siècle, ou Ravel, on se penche aujourd'hui, dans la joie, sur le cas Claude Debussy, inventeur de la musique moderne, compositeur solitaire, à l'avant-garde de tout quasiment. Il est aussi l'un des musiciens les plus samplés, les plus copiés internationalement. C'est encore un compositeur français. Pourtant, son langage musical lui est si propre que cela peut paraître à première vue assez étonnant. Péléas et Mélisande, opéra aux audaces harmoniques inédites et en effet nettement moins facile à réarranger qu'une valse de Chopin. Et pourtant, les mélodies de Debussy sont absolument partout. À Rio, dans les sambas, dans les tris des voix R&B les plus célébrées de leur temps, mais aussi et surtout, il faut le dire, chez les défricheurs, chez les inventeurs de son nouveau, très présent, Claude Debussy chez les pionniers de l'électro, qui saluent souvent en lui le saint patron de tous ceux qui cherchent leur propre langage. Où retrouve-t-on Claude Debussy? On en parle, on en écoute. Debussy, l'éternel retour, c'est tout de suite dans la série musicale.
Mm-hmm.
Sextet de Jerry Mulligan dans les années 60 qui réinterprète nous donne à entendre la plus que lente hommage très direct d'un jazzman, deux jazzmen à Debussy qui ont toujours vu dans le compositeur français du tournant du siècle un précurseur du genre que habite et développe un compositeur qui formé à l'académie lui a à un certain moment donné tourné le dos pour s'affranchir notamment des notions de rythme et d'harmonie en vigueur et trouver son propre langage. Évidemment tout cela n'est guère orthodoxe mais c'est évidemment bien ingénieux, écrivait le professeur de conservatoire du jeune Claude Debussy et de ses trouvailles toutes malignes. La plus que lente d'ailleurs est l'une des pièces les plus facétieuses de Debussy, bien qu'elle le soit à peu près toutes. On y trouve bien sûr une référence aux valses lentes et on y trouve à peu près toutes les constantes dont Debussy fait preuve quand il pense son œuvre, c'est-à-dire un titre évocateur, la plus que lente. Le terme qui manque, c'est celui de valse, auquel Debussy veut évidemment s'essayer, mais un titre qui est bien piégeux, puisque cette valse est une valse miniature, oui, mais que Debussy l'écrit sans jamais demander à ce qu'elle soit jouée lentement. C'est donc la structure de la pièce qui lui donne son caractère alangui, une valse lente qui n'en est pas une, un titre qui, d'une certaine manière, se fait remarquer et qui va porter chance, justement, à l'un des jazzmen qui est à l'origine de ce que vous entendez. Là, cet arrangement est le premier que propose l'un des musiciens les plus sublimes de sa génération. C'est le tout jeune Gil Evans, pianiste autodidacte, fan absolu de Debussy et qui, comme Claude Debussy, plus de 80 ans avant lui, a des velléités de composition mais qui n'a pas encore le courage et de toute façon le cachet pour s'imposer. C'est lui qui va proposer un Jerry Mulligan déjà en pleine gloire, cette version réarrangée jazz de la plus que lente, ce qu'il assoit très vite comme arrangeur et montre déjà ses qualités de compositeur très innovant qu'il ne révélera que bien plus tard. Et parce que la musique de Debussy s'affranchit du classicisme, mais qu'en fait elle offre une architecture qui laisse une très large place aux thèmes musicaux qui sont disséminés mais qui sont les stars de cette musique, aussi parce qu'il fait la part belle à chaque voix de chaque instrument. Debussy a beaucoup été repris en jazz. On pourrait faire une émission entière à partir des reprises de Ahmad Jamal, Herbie Hancock, le Quatuor. Debussy a même enregistré un album entier de reprises, mais parmi les hommages, les appropriations qui nous paraissent les plus intéressantes à nos mais à entendre ces dernières années, il y a celui d'un saxophoniste américain en pleine liberté sur le thème sans doute le plus célèbre, le plus repris de Claude Debussy. On y revient fatalement. C'est le clair de lune de la suite bergamesque, mais façon Kamasi Washington.
Thank you.
Le saxophone et l'ampleur incroyable de l'ensemble de Kamasi Washington qui en 2015 s'affirme avec un album The Epic dans lequel on retrouve cette citation et ce réarrangement, cette revisitation du clair de lune de Claude Debussy, reprise fleuve, inouïe, assez épique en elle-même, qui nous paraît intéressante car Kamasi Washington ne s'inscrit pas impunément dans l'héritage de Debussy. Qui est-il ? C'est un jeune saxophoniste venu de la scène de Los Angeles, absolument pas la ville du jazz aux États-Unis, qui fait figure de novateur et qui crée un pont, littéralement, entre plusieurs esthétiques. Il a été à ce moment-là adoubé par Wayne Shorter ou Herbie Hancock, avec qui il joue régulièrement, et il est trusté, déjà encensé par les artistes qui réinvente le rap à l'époque. Dans son tout premier album, il avait invité la chanteuse Lauryn Hill, mais c'est surtout le rappeur Kendrick Lamar qui le fait jouer dans quasiment tous ses albums. Lorsque cet album The Epic paraît en 2015, Kamasi Washington affirme son identité afro-futuriste. Il fait partie de ces artistes américains qui vont remettre ce mouvement artistique au cœur du propos. Mouvement qui, je le rappelle, on y a consacré une très belle émission l'année dernière. Mouvement qui propose de réinventer, de revisiter, de redonner de l'espace au passé des hommes et des femmes noires pour qu'ils puissent se réinventer un avenir. Dans cet album, The Epic, 3 volumes, un premier volume dans lequel Kamasi Washington laisse libre cours à toutes ses compositions qui s'appelle Le Plan. Ensuite, il y a Le Conte Glorieux et dans une troisième partie intitulée La Répétition Historique, voici un Kamasi Washington qui reprend du Debussy, Debussy avec lequel il est en totale symbiose, avec qui il entend faire dans les années 2015 ce que Debussy avait fait, c'est-à-dire tout réinventer. Kamasi Washington, son orchestration, son réarrangement épique du clair de lune de Debussy en 2015 est suivi de près, où en réalité il a été inspiré par une autre artiste, chantre, fer de lance, chef de file du renouveau de l'afrofuturisme. Elle est une chanteuse, enfin en tout cas c'est une artiste non binaire qui elle aussi va littéralement révolutionner la scène américaine. Tournant des années 2010, elle s'appelle Janelle Monáe. Après un maxi très remarqué par la critique, elle s'affirme devant le monde avec un premier album intitulé The Ark Android, qui reprend tous les motifs chers aux afrofuturistes depuis Sun Ra. Janelle Monáe qui, dans cet album, entend elle aussi réinvestir, ou en tout cas s'approprier, tous les éléments de l'imaginaire collectif qui ont façonné son imaginaire. Dans cet album conçu comme, là aussi, un manifeste en plusieurs parties avec interludes, ouvertures. Dans cet album où elle rend hommage, où elle fait des clins d'œil à la fois à Hitchcock ou Fritz Lang du point de vue du cinéma, autant qu'à l'univers de Philip K. Dick, il est un hommage musical très direct, c'est quasiment le seul. Il est bien à Claude Debussy, Janelle Monáe qui veut faire figure de manifeste et qui ici ne reprend pas, ne réarrange pas, mais cite Debussy dans l'unique chanson d'amour qu'elle propose. Écoutez. Love is not a fantasy, a haiku written in Japanese, a word too often used but not believed. Witness the interaction of the flood, the sea, the sky, the dove. Time erodes the shore but not our love. Say you go.
Thank you.
Après la voix de Janelle Monáe, c'est celle de la chanteuse du R&B Dawn Richards, qualifiée d'une des voix les plus intéressantes, les plus pures, en tout cas les plus célébrées des années 2010, qui dans son premier album très salué par la critique, s'était offert ce dialogue très direct avec Clair de Lune, toujours de cette suite bergamesque, composée par Claude Debussy en 1890. Trois approches différentes qu'a Maddie Washington, une approche de jazzman qui à la fois réarrange et enrichit la version de Debussy. Janelle Monáe qui le cite, c'est ainsi que Janelle Monáe organise finalement le moment où Debussy et elle se rejoignent dans une mise en scène extrêmement spectaculaire, voire cinématographique. Quant à Dawn Richards, elle conçoit sa voix comme un nouvel instrument qui s'ajoute à la partition très épurée au piano seul qu'avait composé Debussy, une forme d'improvisation sur un thème imposé. Très intéressant quand même de constater que ces trois artistes de la scène noire américaine aiment qu'on, d'une certaine manière, nourrisse ce dialogue avec Debussy sur cette pièce qui est une pièce finalement relativement simple et qui est, on peut le dire, une des œuvres les plus connues de Debussy. Un chef-d'œuvre impressionniste d'une simplicité inouïe puisque c'est du piano seul et que c'est un andante très très expressif qui a beaucoup marqué et qui reste, comme on le sait, toujours immédiatement reconnaissable, même si on ne sait pas que c'est Debussy. On connaît cette mélodie et sa partie centrale au piano, très pianiste, qui dégage une grande intensité émotionnelle, reprise évidemment d'innombrables fois, de manière plus ou moins intéressante, aussi dans une version plus festive, par exemple récemment par le groupe Polo & Pan dans Pays Imaginaire.
Portée par le doux sirocco. immaculée. Ce fut beau, les arbres sans duvet avaient chaud, rien ne pouvait nous atteindre. Oh oui, c'est magique.
Polo & Pan qui s'offre une reprise de Clair de Lune de Debussy qui est très pratique puisqu'on connaît la mélodie, ce qui nous donne assez vite envie de danser, on se sent en terrain connu. L'allusion, en tout cas la référence à Debussy se joue aussi dans la nappe très évocatrice, presque impressionniste, quoique, et qui permet d'une certaine manière de produire un son plus enlevé tout en étant fidèle à l'esprit de l'œuvre. Ce qui est intéressant dans ces reprises toutes différentes, c'est qu'évidemment elles jouent sur le fait que notre oreille reconnaît immédiatement la mélodie et qu'on est assez tenté finalement d'apprécier les efforts du compositeur ou en tout cas de celui qui reprend, car notre cerveau, sans qu'on le sache, fait la différence entre l'œuvre connue et celle qui nous est proposée. Beaucoup moins évident en revanche quand Debussy est samplé et comme la plupart des grands artistes qui ont beaucoup écrit pour le piano et qui sont libres de droit, on le retrouve abondamment dans les productions des grands, grands producteurs de hip-hop américains. Là, par exemple, chez un collaborateur de Kanye West, Jeff Bashker, auteur de certains des meilleurs samples des années 2000, dans un tube de la chanteuse, mais aussi pianiste Alicia Keys, Like the Sea, écoutez, c'est un morceau, c'est une petite matrice mélodique très courte et très peu reconnaissable du Clair de Lune que l'on retrouve en sample dans Like the Sea. La loupe, c'est-à-dire la boucle extrêmement efficace, non pas du Clair de Lune, mais d'une autre pièce pour piano des premières pièces impressionnistes pour piano seul de l'histoire de la musique française, à savoir la première arabesque de Claude Debussy. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces toutes premières notes, les 5 mesures d'exposition qui sont reprises ici dans la production orchestrée par Jeff Bashker, sont écrites sur ce qu'on appelle un mode lydien, c'est-à-dire un mode en fa. L'autre particularité de cette pièce, qui d'une certaine manière garantit son efficacité déjà à l'époque et ensuite dans la matrice qu'elle propose pour les gens qui la reprennent, c'est le fameux rythme 3/2, technique extrêmement utilisée par Debussy pour marquer le caractère impressionniste de l'œuvre. Œuvre écrite pour piano seul, mais que beaucoup ont voulu enrichir, retrouver, orchestrer, car Debussy était un immense orchestrateur. Il n'a pas orchestré lui-même la plupart de ses œuvres pour piano, qui sont souvent ses premières œuvres, et qui pourtant sont celles qu'on reprend le plus, car ce sont les plus simples à adapter. D'autres musiciens, au cours du XXe siècle, restant fidèles à l'esprit debussien, se sont fait un plaisir de l'orchestrer. Par exemple, pour saxophone ici, c'est Branford Marsalis et Andrew Lutton qui sont aux manettes. deux tentatives d'orchestration de l'arabesque numéro 1 de Claude Debussy. Pourquoi l'avait-il appelé arabesque? En hommage aux motifs sinueux de la culture arabe ou chinoise de laquelle il s'était entiché, Claude Debussy qui avait une véritable fascination pour les gamelans quand il les avait découverts. Deux hommages indirects à ce que fut Debussy, à ce qu'il a tenté avec cette œuvre, qui est probablement, on l'a dit, l'une des premières œuvres dites impressionnistes, parce qu'elle utilise le mode libyen, parce qu'elle utilise des caractéristiques rythmiques très propres à ce mouvement. Arabesque, donc, orchestré délicieusement par deux jazzmen du XXe siècle. Et là, dans une tentative extrêmement importante, même si elle paraît anecdotique, voire rigolote, vue de nos années 2020. Vous entendez ici Snowflakes Are Dancing, arabesque numéro 1. C'est une tentative d'un des pionniers de la musique électronique, le japonais Isao Tomita, de produire des sons nouveaux pour cela. En 1974, cet album, Snowflakes Are Dancing, fait uniquement des reprises du Claude Debussy. Et innove profondément sur ce qu'il entreprend, puisqu'il utilise les tout premiers synthétiseurs. Et c'est une des premières tentatives de créer des ambiances, des simulations de cordes qui soient réalistes. C'est sans doute la première tentative de synthétiser le son d'un orchestre symphonique. On y trouve évidemment des sifflets, des sons abstraits, de cloches, toute une série d'effets de traitement, de réverbération, de déphasage, qui nous paraissent un peu vieillottes d'ici, mais qui n'existaient littéralement pas à l'époque. Les versions quadriphoniques de cet album ont fourni un effet audio spatial qui utilisait 4 haut-parleurs. C'était absolument nouveau à l'époque. Et c'était la première, tentative importante de comprendre ce que c'est un son polyphonique avant l'ère des synthétiseurs polyphoniques. Ça a eu tellement de succès, cet album, que ça a véritablement lancé Isao Tomita. Cette reprise de l'arabesque a été longtemps le générique d'une émission pour enfants sur France 3, ainsi que le générique de la grande émission aux États-Unis sur le cosmos et l'astronomie. C'est dire. En cela, en fait, Isao Tomita se place lui aussi en défricheur. Il le dit, Claude Debussy était un pionnier avec cette arabesque, moi aussi, je le serai. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul pionnier de la musique électronique à revendiquer l'influence de Debussy. Il y a évidemment nos amis de Kraftwerk qui ne peuvent pas ne pas faire allusion à Claude Debussy lorsqu'ils sortent leur album Manifest, The Man Machine.
Light.
Chavry, hommage, citation harmonique de nos amis de Kraftwerk à Claude Debussy dans Neon Lights, qui d'une certaine manière propose de faire exactement l'inverse de ce qu'évoquait la musique de Debussy, à savoir dans toujours ses arrangements et ses lignes mélodiques, sa structure et son architecture interne, dresser d'une certaine manière un décor élégiaque, onirique, rêverie. Ici, on est amplement dans l'univers de la machine, de l'homme laborieux. C'est à la fois un hommage au caractère pionnier de Debussy et une relecture de ce que proposait cette rêverie. Vous avez tort de faire paraître la rêverie, c'est une chose sans importance et faite très vite. En deux mots, c'est très mauvais. Debussy avait composé cette rêverie alors qu'il était en plein bain symboliste. Rêverie qui est jouée en public que 8 ans plus tard, car Debussy ne l'aime pas, il la trouve carrément anecdotique, comme il l'écrit à ses éditeurs, mais sans doute il la publie parce qu'il manque d'argent, et pourtant c'est toujours l'ironie du sort. C'est sans doute l'une de ses reprises, de ses pièces les plus reprises, les plus jouées, les plus adaptées, les plus transposées. Elle a inspiré bien des jazzmen, une reproposition d'ailleurs, un grand succès dans les années 1930 par un musicien de jazz, va en faire un standard du jazz. Sous le titre « My Reverie », on passe d'une adaptation d'un poème symboliste, puisque la plupart des pièces de Debussy sont adaptées de poèmes, en tout cas sont inspirées par des poèmes, même si jamais dans une transcription littérale. Là devient simplement une chanson d'amour, chantée par exemple par Ella Fitzgerald. Vous reconnaîtrez à la fois l'ambiance très jazz, on est dans véritablement l'ère des Big Bang, mais des cordes pincées à la contrebasse qui, d'une certaine manière, font écho aux audaces rythmiques qu'on trouve chez Debussy.
Our love is a dream, but in my reverie I can see that this love was meant for me. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so cruel as you are to me. My dreams are as worthless as tin to me without you. Life will never begin to be. So love me as I love you in my reverie. Make my dream a reality. Let's dispense with formality. Come to me in my reverie. Our love is a dream, but in my reverie I can see that this love was meant for me. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so cruel as you are to me. My dreams are as worthless as tin to me. Without you, life will never begin to be. So love me as I love you in my reverie. Make my dream a reality. Let's dispense with formality. Come to me in my.
Thank you.
I can see that this love was meant for me. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so cruel as you are to me. My dreams are as worthless as tin to me. Without you, life will never begin to be. So love me.
L'une des autres innombrables reprises de cette transposition jazz de My Reveries, ici dans la version de Caterina Valente, chanteuse italienne qui a aussi beaucoup chanté en espagnol, dans une version qui rend hommage à Debussy de manière assez différente. Dans la version de la Fitzgerald, on était sur une formation jazz, des cordes de pincées, de contrebasse qui joue sur la rigueur et les innovations rythmiques de Debussy. Là, l'allusion se joue plutôt dans, vous l'entendez, l'ensemble orchestral qui est à la fois tout à fait dans une identité très jazz, grand orchestre jazz variété qui pousse vers le latin, mais qui, d'une certaine manière, rend aussi hommage aux capacités de coloriste de Claude Debussy et ses grands génies d'arrangeur, d'orchestrateur. Là, vous l'entendez, c'est un thème dont parfois le grand public, et sans doute le grand public américain des années 50, avait peu entendu, hein, ce thème de Debussy, qu'on utilise parce qu'il est d'une efficacité mélodique absolument étourdissante. C'est ce que fera par exemple aussi George Michael avec l'un des tubes, plus sérieusement l'une des plus grandes œuvres de Claude Debussy, L'après-midi d'un faune, œuvre sensuelle par excellence, façon George Michael. George Michael qui s'attaque sans complexe à L'après-midi d'un faune. L'après-midi d'un faune, grande suite qui, d'une certaine manière, fait entrer Debussy de plein pied dans la musique moderne parce que, en l'écrivant, Debussy, qui l'a longuement mûri pendant plusieurs années, prend le contre-pied de tout ce qui se faisait alors aux orchestres grossissants de l'époque. Debussy opposait une formation presque intime avec cette place très forte donnée au bois, chaud, sensuel, très élégiaque. C'est sur cette connotation sensuelle, évidemment, que joue la reprise de George Michael. Pas de rythme clairement marqué, une pièce qui commençait sobrement avec la voix du faune, presque frêle, qui se chargeait pour ensuite se dépouiller, devenir presque nu dans les deux dernières parties de l'œuvre, des harmonies très délicates qui s'affranchent totalement des lois harmoniques romantiques qui primaient alors. L'après-midi d'un faune est, on le dit, un tableau qui fonctionne par couleurs. Aucune surprise donc à le retrouver dans un tout autre registre, dans l'album phare de l'une des têtes de file du courant dit d'ambient music, musique d'ambiance, qu'on peut juger sévèrement à cause de ce titre, mais qui pourtant vraiment fait la part belle à des innovations musicales. C'est le Norvégien de Biosphère qui s'est fait un énorme plaisir à sampler plusieurs grandes œuvres de Debussy, les rêveries, les images, la mer, ou encore évidemment cet après-midi d'un faune sur son album Shenzhou, mais de manière simplement évocatrice, quand il le fait là, sur cette piste que vous allez entendre, Green Reflection. En fait, Biosphère semble l'un des passages les plus discrets, les moins reconnaissables de l'après-midi d'un faune. Absolument pas donc pour qu'on comprenne d'où vient ce sample, mais pour tout simplement étirer cette ligne de hautbois et être fidèle donc à l'esprit debussien.
Thank you.
La nappe de biosphère construite à partir de ce petit motif de hautbois qui s'étire de l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Hommage direct aux capacités inouïes de décorateur, de coloriste, à la puissance évocatoire profonde des lignes musicales qu'orchestre Claude Debussy. Encore un nouvel épisode de cette série L'Éternel Retour que vous retrouvez avec toutes nos autres séries sur l'application de Radio France. Merci à vous d'avoir suivi cette série musicale. Elle a été réalisée aujourd'hui par Colin Gruel. À la prise de son, c'était Grégory Wallon et Lou Quevauvillier était à la préparation. À la semaine prochaine.